Accent d'Europe, Catherine Roland.
J'ai jamais oublié une chose. Devenir suisse n'est pas un droit, mais un honneur. Mettez-vous ça dans la tête et tout sera plus facile.
Bonjour à tous, et vous le savez sans doute, en France, hein, qui naît dans le pays est français, c'est encore le droit du sol, un droit que le Front National aimerait remettre en cause et qui n'existe pas donc en Suisse. Là-bas, obtenir la nationalité est loin d'être simple, même pour ceux qui sont nés sur le territoire de parents étrangers. Le 12 février dernier, les Suisses ont accepté par référendum de faciliter la naturalisation pour la troisième génération, une toute petite ouverture. Pour les 400 000 autres nés en Suisse, obtenir la citoyenneté est très difficile. Ce qui a même fait l'objet donc de cette comédie culte dans les années 70, Les Faiseurs de Suisse, un film donc toujours d'actualité, et c'est le reportage de Katia Michel.
Voulez-vous me citer quelques-unes des qualités dont doit faire preuve tout étranger vivant dans notre pays avant de devenir un véritable citoyen suisse?
Neutre.
Intègre.
Oui.
Solide.
Oui, par exemple.
Consciencieux, honnête.
Très bien. Et encore?
Franc.
Scrupuleux.
Scrupuleux. Bien.
Courageux.
Cet extrait du film culte Les Faiseurs de Suisse illustre bien la complexité et le parcours bien spécifique pour obtenir la naturalisation. Un parcours par lequel Luisa a dû passer. Elle est née en Suisse, mais d'origine italienne. Elle reste marquée par ce qu'elle considère comme une violation de sa vie privée.
J'ai obtenu mon passeport après 11 ans de démarches administratives, tout en étant effectivement née sur le territoire. J'ai eu tout le contrôle de ce qui est papier. Et puis ensuite, 2 heures d'entretien avec l'enquêteur, qui est un entretien qui est assez rudoyant pour rester poli. Et puis, indéniablement, il y a la situation économique qui est passée en revue, chose qui est très intrusive. Et puis aussi, il y a toujours la question de l'image, est-ce qu'on correspond ou pas au bon Suisse? Cette procédure, moi, je ne peux pas l'accepter. Pour moi, il y a nécessité d'avoir tout simplement droit de sol.
Merci.
Cette démarche de naturalisation, Marlène, 30 ans, s'apprête à la suivre également. Elle habite un petit studio à Lausanne. Elle a grandi dans les montagnes, en Valais, et a toujours vécu en Suisse. Mais ses parents sont portugais. Elle est donc portugaise et devra prouver son intégration pour obtenir la nationalité suisse et donc le droit de vote. Une démarche qu'elle estime malgré tout illégitime et injuste.
On nous impose une façon de prouver qu'on mérite en fait la naturalisation. Et ça m'a très vite dérangée dans le sens où... C'est comme si on nous impose des critères et il faut qu'on se justifie de ces critères. Et je trouve que c'est difficile, en fait, qu'on reconnaisse pas ce qu'on construit, en fait, là où on vit. Et ça, c'est des choses qui me révoltent beaucoup, quoi.
En 2004, les Suisses avaient refusé net, par référendum, de faciliter ces démarches de naturalisation pour les immigrés de la seconde génération. Ceux nés en Suisse, mais de parents étrangers. Un choc pour Marlène, qui, à l'époque jeune citoyenne de 18 ans, s'est sentie mise au banc de la société.
Alors oui, j'ai très mal vécu. Je me sentais de plus en plus citoyenne et partie prenante du monde dans lequel je vivais, du pays dans lequel j'étudiais. Et puis, voilà, j'étais heureuse en fait de pouvoir participer, de pouvoir débattre, de pouvoir donner mon opinion. Et ça a été pour moi un énorme choc en fait, non seulement le résultat, mais aussi toute la campagne qui a précédé. Et puis c'est vraiment là où je me suis dit, mais c'est une humiliation quoi.
13 ans plus tard, il y a donc quelques semaines, les Suisses ont cette fois accepté un nouveau projet de loi pour faciliter la naturalisation de la troisième génération uniquement, c'est-à-dire les petits-enfants d'immigrés âgés de 19 à 25 ans. Un tout petit pas en avant, mais qui réjouit tout de même la députée socialiste Adam Hara à l'origine de ce référendum.
C'est une énorme joie, une grande, grande satisfaction, une grande surprise aussi. Disons, dans le contexte actuel et l'atmosphère sur les questions migratoires, obtenir un 60% du peuple est 16 cantons qui suivent, moi j'appelle ça un grand succès. C'est une belle reconnaissance pour tous les étrangers qui ont construit ce pays avec les Suisses. Bien sûr, c'est de loin pas une révolution, c'est une réforme tout à fait raisonnable, j'appelle ça une réformette. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle ça a passé.
C'est la première fois qu'un projet de loi concernant la naturalisation facilitée est accepté par les Suisses. Marlène ne pourra pas en bénéficier étant de la seconde génération et pas de la troisième, mais elle se réjouit tout de même de cette petite avancée, surtout surtout au vu de la virulente campagne menée par les opposants du parti populiste UDC.
On peut que se réjouir qu'il y ait eu ce résultat quand on a vu ben justement la propagande islamophobe que l'UDC a faite là-dessus. C'est inacceptable, mais ça fait plus de 10 ans en fait qu'on nous sort ça. On nous a sorti les moutons noirs, on nous a sorti Oussama Ben Laden dans une précédente campagne pour des naturalisations facilitées. On nous sort cet argument islamophobe à toutes les sauces et ça me choque, mais en même temps, ouais, ça choque plus en fait, ça dégoûte.
Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.
Moins de 6% des 400 000 étrangers nés en Suisse pourront bénéficier de la procédure de naturalisation simplifiée. Mais ces petits-enfants d'immigrés devront tout de même faire une demande, débourser l'équivalent de plusieurs centaines d'euros et prouver leur bonne intégration.
Seul le suffrage universel et non pas une procédure menée à charge peut décider qui sera le prochain président de la République. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas.
La justice est une autorité, pas un pouvoir. Les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour l'inventer. Pas pour contrecarrer la volonté du peuple, pas pour se substituer aux législateurs.
C'est une situation parfaitement inédite pour notre 5e République. Deux des principaux candidats à l'élection présidentielle sont sous le coup d'informations judiciaires qui pourraient bien aboutir à leur mise en examen. Marine Le Pen, au Front National, et François Fillon chez les Républicains. Pour chacun des deux candidats, une éventuelle mise en examen ne les ferait pas renoncer à l'élection. Et si l'un d'eux venait à être élu, l'immunité présidentielle le protégerait de toute façon de toute poursuite pendant 5 voire 10 ans. Une spécificité française en Europe, eh bien, c'est ce qu'on va voir avec vous, Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Rappelez-nous Daniel, en quoi consiste cette immunité présidentielle en France ?
Elle présente deux aspects bien distincts. D'une part, il y a irresponsabilité du chef de l'État pour tout acte accompli dans l'exercice de ses fonctions. Ce n'est qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat que le chef de l'État peut être traduit devant la haute cour. D'autre part, le président bénéficie d'une inviolabilité qui le met à l'abri durant son mandat de toute procédure civile ou pénale pour les faits commis hors de ses fonctions. En l'espèce, c'est cette inviolabilité qui exempterait Madame Le Pen ou Monsieur Fillon de toute poursuite s'ils étaient élus.
Les autres chefs d'État européens sont-ils protégés de la même façon ?
Sans conteste, les chefs d'État qui sont des monarques bénéficient d'une immunité absolue à l'exception du roi de Suède qui est responsable au plan civil.
Et qu'en est-il dans les républiques européennes ?
Alors dans les républiques, on distingue les régimes pénaux fortement dérogatoires au droit commun et ceux qui le sont peu. Très dérogatoires sont les régimes italiens et grecs qui sont d'ailleurs très proches. En Italie comme en Grèce, la responsabilité pénale du chef de l'État dans l'exercice de ses fonctions ne peut être engagée qu'en cas de haute trahison ou de violation de la Constitution. Dans ce cas, il faut une mise en accusation par le Parlement et c'est la Cour constitutionnelle qui juge. Pour les délits commis hors exercice des fonctions, bon, la question n'est pas très clairement tranchée en Italie, mais a priori, le président n'est poursuivi qu'après expiration de son mandat, comme c'est le cas en Grèce.
Donc finalement, des régimes assez proches de la France, mais ce n'est pas toujours le cas.
Non, car en Allemagne, en Autriche ou encore au Portugal, le régime est assez peu dérogatoire. Dans l'exercice de ses fonctions, le président voit sa responsabilité pénale engagée en cas de violation de la Constitution et de toute loi fédérale en Allemagne et en Autriche. Les poursuites pénales sont exercées devant la Cour constitutionnelle après décision de mise en accusation par les deux tiers de l'une ou l'autre chambre en Allemagne ou bien de l'Assemblée fédérale autrichienne.
Et qu'en est-il des chefs de gouvernement qui, ailleurs qu'en France, dirigent véritablement le pays ?
Tout d'abord, il faut bien préciser qu'en France, le régime applicable au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement est peu dérogatoire au droit commun. Pour des crimes ou délits commis dans l'exercice de ses fonctions, un chef du gouvernement français peut être certes traduit devant la Cour de justice de la République, mais pour tout acte commis sans lien avec ses attributions et même pendant l'exercice de ses fonctions, il est soumis aux juridictions ordinaires. C'est assez similaire au régime appliqué en Autriche, Belgique, Espagne, Pays-Bas et Grèce, où pour un délit commis dans le cadre de ses fonctions, le chef du gouvernement est attrait devant un tribunal spécial. Ce n'est le cas ni en Italie ni en Allemagne, mais dans ces deux pays, ainsi qu'en Espagne, il faut une autorisation du Parlement pour poursuivre, toujours dans le cadre de ses fonctions, le numéro 1 du gouvernement. Pour les faits commis hors de leurs fonctions, partout, comme en France, les premiers ministres relèvent du droit commun. Quant au Royaume-Uni et au Danemark, le droit commun s'applique dans tous les cas de figure.
Daniel, comment peut-on comparer les immunités parlementaires ?
En France, comme pour le président, il y a irresponsabilité pour toute opinion ou vote exprimé dans le cadre des fonctions parlementaires. En dehors de ce cadre, les actions civiles ou pénales durant le mandat du député ou du sénateur exigent une levée de l'immunité parlementaire par l'Assemblée concernée, sauf dans le cas d'un flagrant délit. Ce régime se retrouve pratiquement à l'identique dans la plupart des pays d'Europe, trois exceptions toutefois. En Irlande et aux Pays-Bas, il n'y a pas d'inviolabilité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis en dehors de la fonction parlementaire et la levée de l'immunité n'est donc pas requise. C'est également le cas au Royaume-Uni au pénal, mais il y a inviolabilité en matière civile. Au Portugal, la levée de l'immunité n'est pas non plus nécessaire pour les actes passibles de plus de 3 ans de prison. Même chose en Suède pour les actes passibles de plus de 2 ans. Enfin, en Allemagne, les membres de la Chambre haute, le Bundesrat, ne bénéficient d'aucune immunité parlementaire.
En résumé, Daniel, la France ne se distingue pas particulièrement en matière d'immunité.
Oui, vous avez raison en grande partie, Catherine. Pour les parlementaires et le chef du gouvernement, le régime français est similaire ou très proche de celui des voisins. Mais pour le chef de l'État, disons que l'Hexagone est dans le groupe des pays qui appliquent un régime à largement dérogatoire au droit commun. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard si l'on parle de monarchie républicaine.
Daniel Vigneron de myeurope.info qu'on retrouve la semaine prochaine. Et sachez que les députés européens se sont prononcés aujourd'hui pour la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, demandée par la justice française pour diffusion d'images violentes, celle de Daesh. Les candidats à la présidentielle qui se pressent au salon de l'agriculture, un exercice quasi obligatoire. Moins couru, le mondial des fournisseurs de l'agriculture et de l'élevage, qui se tient en parallèle au nord de Paris. Un marché tout de même de 16 milliards de dollars évalué d'ici 2020. Et aujourd'hui, la présentation des tout premiers tracteurs autonomes. Laurent Berthaud était sur place.
Ces dernières années, les tracteurs ont appris à réaliser bien des tâches par eux-mêmes. Guidés par satellite, ils peuvent se positionner au centimètre près sur la parcelle, définir leur vitesse idéale et même réaliser des manœuvres sans intervention de l'homme. Désormais, ils peuvent se passer complètement de pilote. Le constructeur New Holland propose son premier tracteur autonome. Il ressemble à n'importe quel autre, sauf qu'il est bardé de capteurs et de caméras placés sur la cabine. Nicolas Morel, responsable produit pour la France.
La base, c'est de définir la mission du tracteur, donc de définir sur sa tablette, sur son PC, la mission du jour, donc dans quelle parcelle je souhaite travailler, quel type de travail je souhaite réaliser, avec quel outil, avec quelle dose de semences par exemple, sur quelle ligne de guidage je souhaite travailler, et donc de saisir toutes ces informations préalables pour qu'une fois le tracteur dans la parcelle, il puisse réaliser ce travail de manière autonome.
Une innovation censée répondre à la pénurie ponctuelle de main-d'œuvre et qui permet aussi à l'agriculteur d'être très réactif en cas de pic d'activité, puisqu'il peut désormais conduire deux tracteurs à la fois.
À l'automne, quand il faut implanter le blé, on a souvent besoin de travailler avec deux machines, un tracteur qui laboure, un tracteur qui sème. Le fait de rendre le tracteur autonome va permettre de réaliser ces deux opérations avec un seul conducteur. Donc l'agriculteur laboure, le travail le plus technique, et va pouvoir suivre sur sa tablette depuis la cabine de son tracteur le travail du semoir, un outil intelligent qui est capable aussi de lui renvoyer des informations. Attention, j'ai un rang qui est bouché, j'ai plus de semences dans ma trémie, et donc d'interagir plus facilement avec ce superviseur.
Your farm has to be as efficient as possible. And greater productivity only comes from putting your land, seed, fertilizer, chemicals, equipment, and manpower to optimal use. At Case IH, we call it high efficiency farming.
Enlevez-lui sa cabine et le tracteur du 21e siècle prend tout de suite des allures de bête de course. Carrossé comme une Formule 1, avec sa livrée rouge et noire, perché sur ses paires de roues jumelées, l'énorme tracteur autonome du groupe KZIH suscite bien des regards surpris. Une innovation conçue pour les grandes exploitations américaines et peut-être un peu trop radicale pour les visiteurs français de ce salon à 70% des agriculteurs.
Ça va sûrement être valable dans des grandes exploitations. Et puis c'est la suppression de l'homme, de plus en plus. Alors je ne sais pas si c'est un bien.
Si c'est plus conducteur, c'est déjà du chômage en plus, déjà. Après, c'est plus la passion, on va dire. Celui qui aime bien ça, il préfère être dans son tracteur et puis travailler, conduire, c'est ça la passion. Sans chauffeur, ça sert à rien. Si t'es à deux dans un champ, que, au moins c'est mieux d'être à deux avec un ouvrier, on va dire. Au moins tu peux, je sais pas, parler avec.
Discuter avec un tracteur autonome, c'est moins sympa.
C'est vrai que ouais, on peut pas se faire signe, on peut rien faire. Là.
C'est comme un robot qui traite les vaches. Faut être là aussi. Hein.
Le robot ne fait pas tout seul. Faut la présence humaine tout le temps.
Y aura-t-il encore un chauffeur dans le tracteur? C'est la question que des étudiants de l'école AgroSup de Dijon se sont posés à l'occasion de ce salon. La réponse est oui, mais pas tout de suite. Les premiers tracteurs autonomes ne sont de toute façon pas commercialisés pour l'instant. Il y a aussi un problème législatif. Impossible de faire circuler ces engins sur les routes sans chauffeur. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'avenir, ces tracteurs interagiront avec d'autres appareils autonomes. Thibaut Maillot, maître de conférence à l'école AgroSup Dijon, chercheur en agriculture de précision.
Ce qu'on pourrait penser, c'est que d'abord, il y a un drone qui survole une parcelle, qui regarde l'état végétatif de la parcelle, ou qui regarde, par exemple, s'il y a beaucoup d'adventices, enfin de mauvaises herbes dans la parcelle. Et en fonction de ce que le drone aura détecté, il pourra envoyer ou non le tracteur autonome sur la parcelle pour aller traiter à certains endroits.
Et pour le désherbage, en attendant les tracteurs autonomes, il y a Ose, un petit robot déjà au travail dans une cinquantaine d'exploitations françaises. Électrique et bardé lui aussi de capteurs, il a été mis au point par l'entreprise toulousaine Nayo Technologies. Mathias Carrière, responsable commercial.
On va être sur du désherbage mécanique, ce qui est aujourd'hui une des tâches les plus qui prend le plus de temps pour un maraîcher. Et aussi qui est assez pénible, hein, la terre est basse comme ils disent souvent. Donc son but c'est de repérer les lignes de culture, par exemple des rangs de poireaux, de se servir de ces rangs de poireaux pour se guider, faire demi-tour de façon autonome, récupérer la rangée suivante et ainsi de suite. Quand il a fini son travail, il envoie un SMS à l'agriculteur, travail terminé, viens me récupérer, ramène-moi au point de charge ou faire une autre parcelle.
Un assistant qui permet au maraîcher d'avoir plus de temps pour planter, récolter ou faire les marchés et aussi réaliser des économies, comme l'explique le maraîcher Franck Échard sur France 24.
Nous, ça nous dégage de la main-d'œuvre et forcément, on a moins de charges à payer. Aujourd'hui, on paye beaucoup moins de charges sur le robot que sur du personnel. Quoi.
À condition de débourser 21 000 euros minimum pour ce robot, Nayo Technologies espère vendre 30 nouvelles machines en France et en Europe cette année.
Yo, flickor, här är nya klasskamrat.
Måste prata svenska.
18,0.
Le film s'appelle Sami Blood et il s'est fait remarquer en Suède notamment. Le royaume, champion de l'égalitarisme, a maltraité les populations indigènes, les Samis, au début du XXe siècle. Et le film veut réparer cette injustice, Pauline Curtet.
Le film se déroule dans la Suède des années 30. Il met en scène Elle Maria, une adolescente issue de la population indigène Sami, les éleveurs traditionnels de Rennes. On la scolarise de force dans une école pour les enfants de sa communauté. Là, elle subit humiliation et brimade de la part des professeurs. On lui répète que son crâne est plus petit que celui des Suédois et qu'elle est donc moins intelligente qu'eux. On la prend en photo toute nue. Les enfants suédois se moquent d'elle. Elle décide donc de s'enfuir de cette école et cherche à oublier ses racines Sami avec un but, celui de devenir une vraie Suédoise. Sami Blood est réalisé par Amanda Kernell, une Suédoise elle-même d'origine Sami. Dans plusieurs interviews, elle raconte qu'aujourd'hui encore, être d'origine Sami peut être source de honte pour certains membres de sa famille, tandis que d'autres en sont fiers. Elle dit également avoir été surprise par le fait que les Suédois ne savaient presque rien de ce passé peu reluisant pour leur pays. Vu la première réception très positive du film dans le pays nordique, il est bien possible que la réalisatrice ait réussi à les sensibiliser à la cause d'une communauté qui, aujourd'hui, ne représente plus que quelques milliers de personnes en Scandinavie.
À la réalisation d'Accent, Françoise Grelot, vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute dans quelques instants de journal.
L'épopée des musiques noires.